On va aller ensemble dans Jean ce matin, on poursuit dans Jean. Puis, comme la semaine dernière, on retrouve Jésus avec ses disciples quelques heures avant son arrestation, quelques heures même avant sa crucifixion. Et Jésus veut préparer les disciples. Il cherche à préparer les disciples pour ce qu'ils vont vivre comme tristesse, comme désarroi, même comme panique, lorsqu'ils vont réaliser que leur Seigneur est arrêté, ensuite de ça est crucifié, ils vont littéralement l'abandonner. Et Jésus veut les préparer parce que Jésus sait très bien que tout leur bonheur éternel, leur bonheur et le nôtre, dépend de ce moment-là de souffrance. Donc Jésus veut les préparer pour ça, il leur dit c'est nécessaire, mais ce qui s'en vient, ce que vous ne comprendrez pas sur le moment, va rendre possible toute la joie du monde. Va rendre possible votre accès auprès du Père, va rendre possible votre intimité avec mon Père, qui va être votre Père. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Père éternel, je viens dans la prière avec cette conviction profonde que je suis entendu de toi comme ton Fils Jésus est entendu de toi. Je viens, Seigneur, non pas comme si je te passais un message par Jésus, mais je viens dans le nom de Jésus, dans ta sainte présence. Convaincu, Père, que tu m'entends. Convaincu que tu m'aimes en Jésus-Christ. Caché en lui, Seigneur, j'ai cette confiance que je suis accueilli, que je suis aimé de toi. Et je te prie, Père, de venir nous parler ce matin, puissamment par ton esprit. Viens nous convaincre. Prends ta parole, Seigneur, et viens vraiment la déposer dans notre âme. Viens éclairer notre intelligence, viens nous donner une profonde conviction qui nous donne envie, cette semaine et tous les jours, à venir constamment dans ta présence, Père. Et si ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, comme on va le voir dans le passage, je te prie, Seigneur, de lui accorder cette grâce ce matin. Viens lui faire entendre ta voix. Viens l'attirer à Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bonjour. Alors, on est dans Jean, au chapitre 16, les versets 16 à 33, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 16, versets 16 à 33. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père? » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps? » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Merci, Esther. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre joie et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. De quelle joie Jésus est en train de parler ici? Parce que la vie chrétienne n'est pas tous les jours joyeuse, c'est pas vrai. Mais Jésus dit, bien, je vais aller mourir sur la croix, vous allez être complètement perdus, vous allez être dans une détresse complète. Mais vous allez me revoir bientôt, et quand vous allez me revoir, vous allez être habité d'une joie que personne ne pourra plus jamais vous enlever. Bien, c'est la joie de savoir que Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est la joie qui vient de la foi lorsque nous croyons en Jésus. C'est la joie qui vient lorsque tu sais que parce que Christ est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu as accès au Père en tout temps. Tu as toujours accès à Dieu. Ça ne dépend pas de toi, savoir si tu as été une bonne personne ou non. Tu as accès auprès de Dieu. C'est de cette joie-là dont il est en train de parler. Être habité d'une conviction profonde que peu importe les circonstances de la vie, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu m'attend. L'éternité dans sa présence m'est assurée. Personne ne peut m'enlever ça. Jésus va dire ça d'une autre manière lorsqu'il va dire « Personne ne peut les ravir de ma main. C'est moi qui les ai choisis. » Il nous garde dans cette joie qui vient de la foi en lui. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'ironie de l'Évangile, c'est que la tristesse de la croix rend possible toute la joie du monde. L'ironie de l'Évangile, c'est que la tristesse de la croix rend possible toute la joie du monde. Premier point, la tristesse de voir Christ sur la croix rend possible toute la joie du monde. Verset 20, 21, en vérité, dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Christ devait être abandonné et crucifié pour notre joie. C'est l'ironie de l'Évangile. L'Évangile a quelque chose de terriblement odieux. Le plus beau symbole du christianisme, c'est notre Sauveur crucifié. C'est de voir l'être pur, parfait qui était Jésus, glorieux, majestueux, le Fils de Dieu, celui en qui le Père a mis toute son affection, dépouillé, dévêtu, battu, cloué sur la croix. C'est le symbole le plus glorieux et le plus beau du christianisme, la croix de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est absolument odieux. C'est affreux. Cette semaine encore, j'écoutais un philosophe sur le web qui rejette catégoriquement le christianisme. Puis le motif qu'il a donné, c'est cette idée que le Père envoie le Fils et que le Fils se donne en sacrifice. Pour lui, c'est tellement odieux qu'il rejette catégoriquement le christianisme pour cette raison-là. Lorsque Dieu te donne de voir dans ça le plus beau, le plus grand geste d'amour, tu as connu l'Évangile de Jésus-Christ. Christ devait être abandonné et crucifié pour notre joie. Puis Jésus donne une illustration. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Elle a une bonne idée de la souffrance qui s'en vient. Puis moi, je ne l'ai pas vécu, évidemment, mais je l'ai vécu de près. Puis je peux vous dire que l'infirmière, elle m'a dit, « Monsieur, asseyez-vous parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. » Elle a juste vu mon visage qui changeait de couleur complètement. J'étais juste sympathique avec ce que mon épouse est en train de vivre à ce moment-là. Puis Jésus dit, ben, c'est absolument nécessaire. Puis une fois qu'elle a donné naissance à l'enfant, ce que tu découvres dans ce petit être-là, la beauté de cet enfant-là, ceux qui ont connu cette joie-là, écoutez, ça vaut toute l'or du monde d'avoir cet enfant-là dans tes bras. Ça vaut toute l'or du monde. Une grossesse avec toute la souffrance qu'elle entraîne est nécessaire pour rendre la joie possible. Alors imaginez la joie du monde entier, tous ceux qui croiraient en Christ, qui pourraient être réconciliés avec le Père pour l'éternité. Jésus dit, oui, ça tombe sous le sens que j'aille faire ce sacrifice-là. Et c'est correct que vous passiez par la tristesse de me voir sur la croix. Parce que la joie qui va suivre ça va être absolument extraordinaire. Comme je mentionnais tout à l'heure, hier, on a célébré le mariage de Jonathan puis Mélodie. Évidemment, le nombre de places était restreint, tout ça. Mais c'était vraiment un beau moment. C'est une des grandes joies qui est donnée de vivre à ceux qui sont appelés au mariage. Puis dans quelques années, peut-être qu'on va les voir avec un petit enfant aussi. Puis ces grandes joies-là, comme celle d'avoir un enfant, engage énormément de souffrance pour y arriver. Mais la joie d'avoir cet enfant-là dans nos mains. C'est intéressant de méditer juste sur l'idée. Jésus dit dans le passage, il dit, « Je suis venu dans le monde, puis maintenant je retourne au Père. » Puis c'est intéressant, un des commentateurs faisait allusion au passage dans Ésaïe, lorsque Dieu dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. L'évangile de Jean commence en nous disant que Jésus est la parole. La parole est venue dans le monde, elle a fait son effet, puis elle est retournée au Père. C'est quand même intéressant, hein? Je vous invite à méditer sur cette image-là que Jésus prend de cette femme qui porte un enfant, qui le met au monde à travers des souffrances, mais pour vivre la joie d'avoir donné une vie. Jésus nous donne ces illustrations-là pour qu'on médite sur ça. On veut être une église qui est émerveillée par l'Évangile, ça demande le temps de m'arrêter pour méditer sur la beauté de l'Évangile. Prendre le temps de m'arrêter puis de dire, Christ qui était dans la présence du Père de toute éternité, glorifié, adoré, célébré, a choisi de venir naître comme un petit enfant, s'humilier, devenir sa propre créature, vivre parmi les hommes, être totalement incompris par les hommes, même rejeté, battu, méprisé, mourir sur la croix, dans une incompréhension totale, tellement convaincu que les hommes ne comprennent pas ce qu'ils font, qu'il va s'écrier, il va prier, « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Juste lui, le Père, qui comprenait ce qui est en train de se passer là, la Sainte Trinité comprenait ce qui est en train de se passer là. Puis Jésus meurt, Jésus souffre et Jésus meurt. On n'arrivera jamais à saisir vraiment la souffrance qu'il y a dans le cri de Christ lorsqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » J'arrive pas à comprendre comment résoudre ça théologiquement. Dieu est toujours en paix. Dieu ne souffre pas de la même manière que nous on souffre parce que Dieu est totalement serein, il est toujours en accord avec ses décisions, ses desseins. Les Écritures sont claires. Puis pourtant, j'ai ce moment-là où dans la Sainte Trinité, il y a une espèce de fracture qui est là, quelque chose qui se passe là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je l'ai déjà dit du haut de la chair à plusieurs reprises. Si Dieu avait fait entendre sa voix à ce moment-là, la réponse aurait été « Mais parce que tu es l'être le plus odieux à mes yeux en ce moment. Parce que tu as été fait péché. » J'arrive pas à comprendre exactement comment résoudre tout ça. J'attends d'être dans la présence de Dieu pour qu'il m'aide à comprendre ces mystères-là sur la personne de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas d'être émerveillé puis d'adorer le Seigneur pour ça. D'être reconnaissant dans mon âme pour cette souffrance-là. Jésus meurt sur la croix, puis il renaît. Premier-né d'entre les frères. C'est vraiment l'image d'une naissance. C'est une nouvelle naissance avec un corps glorifié qui rend possible toutes les nouvelles naissances qui vont venir après. Je vous invite à méditer sur ça, à être inspiré dans votre louange, dans votre adoration. Votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus nous dit qu'en mourant sur la croix, c'est ce qu'il dit à ses disciples ici, il dit « J'ai vaincu le monde ». Au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous allez être rejetés, vous allez marcher dans mes voies. Ça va faire mal. Vous ne faites plus partie de la gang. Prends-le pas personnel. » Mais j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce qu'en mourant sur la croix, Christ a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu tout ce qui dans le monde s'oppose à Dieu, tout ce qui en moi s'oppose à Dieu. Christ a vaincu tout ça. Il dit, prenez courage, la victoire est assurée. Vous avez accès au Père. C'est mon deuxième point. Vous avez accès au Père. Vous avez cru que Jésus est sorti de Dieu. Regardez les versets 26, 27, 28. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Il y a un changement au niveau de la prière qui est vraiment important ici. « Et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Il dit, « Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » La mort de Jésus sur la croix nous ouvre l'accès au Père, rend possible que nous accédions dans la présence du Père. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est sa mort sur la croix qui rend ça possible. Qu'est-ce qui fait que toi, plus qu'un autre, as accès au Père? Qu'est-ce qui fait que moi, plus qu'un autre, j'ai accès au Père? Christ meurt sur la croix, ça rend possible que j'ai accès au Père. Il paye sur la croix pour mes péchés, si je crois. Parce que c'est très clair dans le passage ici que ce n'est pas tous les êtres humains qui ont accès au Père après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont ses disciples. Puis Jésus nous donne ici, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi qui est nécessaire? Il dit, parce que vous m'avez aimé et parce que vous avez cru que je suis sorti du Père. C'est le fait de croire que Jésus vient de Dieu et qu'il est sorti de Dieu et de l'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ, loin de là. Ce n'est pas tout le monde qui aime Christ, loin de là. Ce n'est pas tout le monde qui aime le Jésus de la Bible. Je le donne comme exemple des fois, puis j'en discute avec des amis qui sont musulmans. Ils vont dire qu'ils ont une grande révérence pour Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce qu'ils disent que les chrétiens ont menti sur Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les musulmans. Jésus est mort sur la croix pour ceux qui croient dans son sacrifice, pour les chrétiens littéralement. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui croit que Jésus vient de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui aime Christ. Maintenant, si toi, tu as cru qu'il vient de Dieu, si après avoir lu ses paroles, si après avoir étudié les Écritures, si après avoir entendu l'Évangile, l'Esprit-Saint a saisi ton âme, a saisi ton cœur et t'a donné une conviction profonde que tout ça, ce ne sont pas que des mythes, ce ne sont pas que des histoires. Jésus n'est pas seulement un modèle à imiter. Il vient vraiment de Dieu comme aucun homme vient de Dieu parce qu'il est Dieu le Fils qui s'est fait homme. Puis tu es tombé en amour avec Christ, tu l'as aimé, tu le chéris dans ton cœur comme vraiment ton bien le plus précieux. À ce moment-là, tu as accès au Père. C'est pour ces raisons-là que tu as accès au Père. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as été un bon garçon, une bonne fille, un bon chrétien, C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as bien fait. C'est pas parce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu dis, ouais, OK, je suis fier de moi aujourd'hui. Je pense que je peux m'approcher de Dieu. C'est vraiment difficile comme chrétien de changer notre manière de voir notre rapport à Dieu puis d'avoir une conviction profonde que j'ai toujours accès, je peux aller vers lui constamment, il est là. Vous savez, lorsque tu cherches un emploi ou tu cherches des contacts à quelque part, puis là tu dis, ah, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être, tu sais, me présenter tout ça. Puis là, tu cherches juste cette faveur-là, d'avoir quelqu'un qui va faire les présentations. Puis là, tu te sens choyé si tu as quelqu'un qui fait des présentations, mais la relation n'est pas gagnée du tout, là. Tu as juste comme quelqu'un qui te présente, là, après ça, une fois que les présentations sont faites, toute la pression est sur toi. C'est vraiment pas la même chose que lorsque j'ai une relation avec cette personne-là, j'ai pas besoin que personne me présente. En fait, j'ai les clés de la maison. Vous avez peut-être des amis comme ça où vous dites, écoute, le niveau de confiance est tellement grand, tiens, je te laisse les clés de chez nous. Si jamais il y a quelque chose, j'ai besoin de quoi, tu sais. Mais si tu as cru que Jésus vient de Dieu, qu'il est sorti de Dieu, et si tu l'as aimé, tu as les clés de la maison. Tu as accès au Père. Pas parce que tu es un bon garçon ou une bonne fille. C'est dur à changer, hein? De sentir qu'on a toujours cet accès-là au Père. C'est difficile à changer. Je ne suis pas sa coche, je n'ai pas performé, je ne suis pas satisfait de moi-même, j'ai honte, je suis retombé dans un péché, je ne vais pas aller dans la présence de Dieu. Arrête de faire mentir l'Évangile. Arrête de rejeter l'Évangile. Embrasse la bonne nouvelle. Fait que si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu aimes Jésus? Bon, peut-être que tu vas être pris du syndrome de Pierre, tu sais. Mais oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Non, mais est-ce que tu aimes Jésus? Pas parfaitement. C'est quoi la réponse de Jésus? Mais paie mes brebis. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. Là. J'ai juste besoin que tu crois que je viens du Père et que tu m'aimes. Puis tu as les clés de la maison. Tu as les clés de la maison. Tu as accès au Père. Est-ce que ça rentre ce matin? Tu as accès au Père. Tu peux aller constamment dans la présence du Père. C'est ce qui rend la doctrine de l'Église catholique sur Marie. Malheureusement, c'est ce qui rend cette doctrine-là tellement scandaleuse à la lecture de l'Évangile. Jésus lui-même nous dit, écoute, tu n'auras pas besoin toujours de dire, écoute Jésus, peux-tu passer un petit mot au Père, s'il te plaît? Je suis comme mal pris, je pense qu'il m'a oublié. Non, tu as accès au Père. On ne va pas passer par Marie, là, c'est le comble. Tu as les clés de la maison. Oh, mais c'est dur à rentrer dans nos petites têtes. Vous avez entièrement accès à votre Père qui vous aime. En ce jour, vous demanderez en mon nom, versets 26-27, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Certains d'entre vous, vous luttez avec ce sentiment-là. Est-ce que Dieu m'aime? Bien, Dieu dit, quand t'en doutes, pose-toi juste la question, si t'aimes mon fils. Si t'aimes mon fils, moi je t'aime. Si t'aimes mon fils, moi je t'aime. Si tu aimes mon fils, je t'aime. Et peut-être que tu as besoin de prendre du temps dans la prière, tu as besoin de prendre du temps pour méditer sur ça. Jésus veut former en nous une conviction profonde que nous avons accès auprès du Père. On a encore des passages dans le Nouveau Testament qui nous dit que Jésus intercède pour nous. Hein? J'aurai pas le temps, j'irai pas dans les passages ce matin, mais on a quelques passages qui nous disent que Jésus intercède pour nous. Jésus intercède en notre faveur, c'est vrai, et pourtant nous avons entièrement accès au Père. Et je crois que Christ est en train de prier pour que l'œuvre de l'Esprit soit complétée en nous. Et une partie de cette œuvre-là, c'est de nous donner la conviction profonde que je suis vraiment devenu un frère de Christ et que j'ai les clés de la maison, que je peux m'approcher de mon Père céleste comme Christ s'approche de son Père céleste dans son humanité de la même manière. J'ai le même accès. Et puis il dit, « Priez pour que votre joie soit complète. » Verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, je vais toujours prier dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui la clé pour que je rentre à la maison tout le temps. Maintenant, ce passage-là est vraiment challengeant pour notre foi. Parce qu'il est en train de nous donner une promesse énorme par rapport à la prière. Puis il dit, il y a une joie, il y a une perfection dans la joie qui se trouve seulement si tu apprends à aller dans la prière puis à aller demander au Père. Ce matin, je veux vraiment vous demander de revoir votre horaire pour allouer du temps pour aller dans la présence du Père. Mon expérience à moi, ça fait quelques années là, que je suis chrétien, quelques décennies, c'est que c'est un long apprentissage, apprendre à aller dans la prière. Mais je ne veux pas reculer devant ces promesses-là. Je veux apprendre à aller prier mon Père. Et puis je pense que ce passage-là va avec le passage un tout petit peu plus tôt lorsqu'il dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. » Donc, ce que je veux apprendre quand je vais dans la prière, je veux apprendre à prier comme Christ. Je veux aller dans la prière avec la confiance que le Père veut répondre à toutes mes prières, en sachant que je suis en train de prier selon sa volonté, en sachant que je suis entièrement soumis à sa volonté. Mais avec cette profonde conviction que lorsque Jésus prie, il dit, « Mais je ne te prie pas pour moi, je te prie pour ceux qui voient comment tu réponds à mes prières. » Parce qu'il y a une joie profonde qui t'attend si tu apprends à aller constamment dans la présence du Père, dans la prière. Puis il y a une image qui me venait à l'esprit pour les « doers ». Ceux qui sont des gens d'action, c'est difficile la prière. Hein? Vous avez plein de choses à faire dans votre journée, vous avez un checklist, puis vous êtes des gens d'action. Puis c'est difficile de développer cette saine habitude-là de constamment aller vers le Père, puis de dire, Père, je veux te remettre ma journée, je veux te demander de m'accompagner, je veux te demander de renouveler mes forces. Viens, Seigneur, ouvrir la voie, viens me donner de la sagesse, viens me donner de l'intelligence, viens me remplir. Les doers, c'est difficile juste de prendre ce temps-là. J'aimerais ça vous donner une image qui m'est venue à l'esprit, qui peut-être va vous inspirer. Il y a plein de domaines dans la vie qui sont vraiment des expertises qu'on développe. Et la meilleure manière de développer une expertise, c'est d'apprendre sous la supervision d'un expert. C'est vrai dans des sports, c'est vrai si tu es en train d'apprendre à jouer de la musique, c'est vrai si tu travailles dans un laboratoire de recherche. Ce que tu veux, c'est le chercheur en chef qui supervise un peu tes travaux. Lorsque j'apprends des arts martiaux, celui qui nous enseigne est là, puis nous, on pratique, puis on pratique, puis on pratique. Puis à un moment donné, il vient nous voir, puis il fait juste dire, « Regarde, ta position n'est pas bonne. » Puis là, il dit, « Tasse-toi une seconde, je vais prendre ta place. » Puis il fait comme de la magie, parce que lui maîtrise parfaitement la technique. C'est la même chose quand tu apprends un instrument de musique, tu es là, puis tu pratiques. Puis il faut que tu aies la confiance de pratiquer, puis faire tes choses, mais en même temps avoir la joie de savoir que lui est là, le maître est là, puis il est en train, il va intervenir. S'il y a une intervention, il va la faire. Et donc, pour les doers, l'image que j'avais à l'esprit, c'est apprenez à aller vers le Père, puis à dire, Père, j'ai tout ça à faire aujourd'hui, et je ne veux pas le faire loin de toi. Je veux le faire tout près de toi. Je veux, dans la journée, quand je suis là, puis j'ai comme un doute, juste me tourner vers toi, puis dire, Père, je veux faire ta volonté. C'est toi qui es parfait. Moi, je suis imparfait. J'ai tout ça que je veux faire pour ta gloire aujourd'hui, mais je veux le faire dans ta présence, pas loin de toi. Et j'espère que ça vous inspire, parce que c'est ce qu'on trouve chez Jésus. Jésus, on le trouve parfait, il est merveilleux, il est extraordinaire. On dit, j'aimerais ça être connecté avec le Père comme lui. Oui, mais il passait du temps avec lui. Donc, je veux vraiment vous exhorter ce matin, s'il n'y a pas de temps dans votre vie pour la prière, vous êtes en train de vous priver du plus bel accès que vous aurez jamais. Vous êtes en train de vous priver de la présence du Père, de celui qui tient votre souffle dans sa main, qui vous attend, vous avez accès à lui. C'est un apprentissage, ça prend du temps. Si je parle de prière, puis tu n'es pas en mesure de penser à quel moment tu pries dans ta journée, à quel moment tu pries dans ta semaine, Quels sont ces moments où tu pries assez longtemps pour réaliser que tu n'arrives pas à prier, mais tu vas continuer à prier jusqu'à temps que tu commences à prier? Ça fait-tu du sens ce que je dis? Ouais, il y en a plein comme ça, des moments comme ça. Je m'en vais dans la prière, je réalise après 5 minutes, je ne prie pas pantoute, qu'est-ce que je fais ici? Là, je suis tenté de m'en aller, tu sais. Alors, pour moi, je vous le dis souvent, c'est aller marcher. Je vais marcher dans le bois, bien, je veux dire, je vais m'en aller, je vais faire quoi? Il faut au moins que je rentre chez nous, tu sais. Fait qu'on va encore essayer de prier pendant qu'on continue la marche. Puis, il y a un moment où je commence à prier. Le temps passe, je réalise, ça fait 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Le temps a passé, j'ai prié. C'est un long apprentissage. Mais il y a une perfection dans la joie qui se trouve là, à cet endroit-là qui ne se trouve pas ailleurs. Parce qu'après tout, vous avez accès au Créateur de l'univers. Vous avez accès à votre Père céleste. Et il vous aime tendrement. Puis vous avez la clé. Vous avez aimé Jésus, vous avez cru en lui. Et je termine avec un dernier élément dans le passage. Donc, premier point, la tristesse de voir Christ sur la croix rend possible toute la joie du monde. Vous avez accès au pain et vous avez accès à la paix. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant pendant que je couvre ce troisième élément-là. Vous avez accès à la paix. Regardez le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est une des choses qu'on a besoin d'apprendre, c'est que notre paix se trouve en Christ et elle est disponible. Lorsqu'un chrétien vit une paix profonde, ça ne dépend pas des circonstances. Dans le cadre de mon ministère pastoral, j'ai eu l'immense privilège d'aller prier avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de chrétiens qui vivent des moments de grande souffrance. Et lorsque je vais les rencontrer et qu'ils vivent une paix profonde, c'est évident que ça ne dépend pas des circonstances. Ils ont leur paix en Jésus-Christ. Et cette paix-là est toujours disponible. Des fois, il faut se battre pour y arriver, parce qu'il faut que je retourne là, demeurer en moi. Mais elle est là, elle est disponible. Vous avez accès à la paix dans un monde où il y a des tribulations, où il y a de la souffrance, où il y a de la douleur. Puis il y a des moments dans notre vie où c'est un combat qui est plus grand, mais elle est toujours disponible, cette paix-là. Et c'est lorsque j'apprends à travers les années à vivre une paix en Jésus qui ne dépend pas des circonstances. J'apprends à emprunter ce sentier-là qui me reconduit à ce lieu-là, à l'intérieur de moi, où je suis dans la paix en Jésus. J'apprends avec les années à aller vers ce sentier-là rapidement. Juste aller le reprendre et aller me reposer en Christ. Peu importe les circonstances. Et on a des récits à travers l'histoire de l'Église de gens qui ont vécu des situations absolument abominables. Difficiles, des souffrances, des persécutions, des martyrs, des abus, et qui pourtant avaient cette paix-là, parce que cette paix-là se trouvait en Jésus-Christ. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur, encore une fois, et c'est vraiment un bon passage pour prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est un bon passage pour apprécier, célébrer l'Évangile de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, dans Jean 16, verset 20, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Le repas du Seigneur, c'est un mémorial qui nous a été donné pour se rappeler avec le jus de raisin qui représente le sang, le pain qui représente le corps brisé. C'est Jésus qui l'a donné à ses disciples quelques heures avant d'être arrêté, avant de mourir sur la croix. Puis il dit, « Ceci, je vous le donne pour que vous vous rappeliez constamment de ma mort sur la croix pour vous. Que vous vous rappelez que si vous avez cru que je viens de Dieu, si vous m'avez aimé, vous avez la clé qui vous donne accès au Père constamment. Constamment. Et la paix qui est en Jésus est disponible constamment. C'est un apprentissage. C'est pour ça que c'est bon de prendre régulièrement le repas du Seigneur, puis juste de venir humblement dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi tous ces moments où j'essaie de faire les choses par moi-même. Pardonne-moi toutes ces fois où je doute que j'ai accès auprès de toi. Pardonne-moi de ne pas lutter pour apprendre à prier, Père. Je veux apprendre à aller chercher cette joie parfaite qu'on trouve là dans la présence du Père dans la prière. On va prier ensemble puis on va prendre les éléments. Père, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu as donné ton Fils. Seigneur, de quel amour tu nous as aimés pour envoyer ton Fils sur cette terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Quelle grâce, quel amour infini, Seigneur, tu as manifesté. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer parce que toi qui étais Dieu le Fils, en plus, tu es devenu notre frère. Tu es devenu un homme incompris, méprisé, admiré et haï à la fois, rejeté, battu, jugé injustement, crucifié. Seigneur, la tristesse de la croix nous a ouvert la voie d'une joie infinie. Et en toi, Jésus, j'ai confiance, j'ai la certitude dans mon âme que le Père m'entend. Père, je sais que tu m'aimes à cause de Christ. Seigneur, je suis indigne de cet amour-là, puis pourtant, je ne porte pas mon indignité devant mes yeux, je porte la beauté de Christ. Je ne viens pas à toi, Seigneur, avec la tête basse, je viens à toi avec un sourire, le sourire d'un enfant qui entend la voix de son père qui dit « Viens dans mes bras ». Seigneur, je te prie de nous faire grandir dans cette conviction profonde que nous avons accès auprès de toi, Père. Viens nous apprendre à être des gens de prière. Viens nous faire savourer ces moments de joie dans la prière, Seigneur. Où nous prions selon ta volonté et on te voit répondre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci pour le pain, merci pour la coupe. Sois béni, Jésus. Sois béni.